Chronique d'un siècle. Une émission culturelle présentée par Jeanne Boursier sur Radio Boomerang 89.7 FM.
Bonjour à toutes et à tous, Jeanne Boursier pour Chronique d'un siècle sur Radio Boomerang 89.7 FM. Les coiffeurs ferment, les coiffeurs se plaignent de l'ouverture des boutiques de barbiers qui peuvent tenir le rôle de coupeurs de cheveux sans diplôme aucun. Les coiffeurs se désespèrent de la chute vertigineuse de l'enseignement de la coiffure et restent sans voix devant la nonchalance, l'inertie même de leurs apprentis. Farfouillant dans mes livres, je me suis replongé dans La physiologie du coiffeur, un petit ouvrage écrit en 1862 par Louis Le Mercier de Neuville. Et je me suis dit que le sujet était bien plaisant pour faire une émission sans remise en question de l'ordre établi.
Je suis arrivée une bonne demi-heure, plus tôt que l'heure de mon rendez-vous. Le temps d'être sûr de la couleur, pour ne pas regretter après coup. Le temps de fouiller dans les revues pour découvrir Claudia Schiffer. Les bras en l'air à moitié nus, bien entendu belle comme un cœur. C'est alors que j'ai eu un flash, j'ai dit c'est comme elle que je les veux. Mon vieux, faut pas que tu me les gâches, ce soir je vois mon amoureux. J'ai insisté sur la longueur, y a dit du calme, chère cliente. Soyez tranquille, ayez pas peur, je vais vous rendre époustouflante. Il a dit, je connais mon art, laissez-moi faire, vous allez voir. Je vais vous faire un look d'enfer, on va vous prendre pour une star. Il semblait tellement convaincu que je lui ai dit, je te fais confiance, j'ai pris place avec ma revue, en essayant de garder le silence. Morte de trouille avec ma cape et ma serviette autour du cou, j'ai subi la fameuse étape du casque de bain avec des trous. Messieurs, vous avez pas idée, vous qui passez chez le barbier, vous faire donner un coup de ciseau avant de retourner au bureau. De ce qu'il faut que l'on endure et de combien on s'humilie lorsque l'on risque notre chevelure comme s'il s'agissait de notre vie. Aux mains de ce qu'on appelle une tante qui jure que l'ovale de notre visage exige telle ou telle permanente et puis tel ou tel balayage. Oui, vous qui n'êtes que témoin de notre retour hystérique, la tête comme une botte de foin et le portefeuille anorexique. Vous qui avez la lourde tâche de réprimer votre fou rire pendant qu'on se cache dans la salle de bain et qu'on refuse de sortir. J'en étais donc au casque affreux qui me retombait sur les yeux. Quelle fâcheuse position pour apercevoir dans le salon ma grande voisine de 6 pieds, hein, avec sa jupe et son parfum, qui s'en vient s'écrier « Salut Linda, je t'ai presque pas reconnue !» Puis j'ai eu droit au bigoudi, c'est juste pour donner plus de corps que la foi folle m'avait promis avant que je passe au séchoir. Il avait simplement omis de me dire que j'aurais l'air d'avoir de la parenté en Haïti. C'était crépu, quelque chose de rare. Enfin, comble de désespoir, les mèches blondes sont sorties rousses. Le tour d'oreille fait au rasoir, fallait que j'attende que ça repousse. Ce qu'il y a de pire dans mon histoire, c'est qu'après mon passage à la caisse, j'ai dit merci beaucoup, bonsoir, comme la reine des épaisses. Je suis revenue en beau maudit, époustouflante qui m'avait dit. Mais pour époustoufler ça, oui, j'époustouflais en Jésus-Christ. Je me suis étudiée dans le miroir en petite culotte, en levant les bras. J'ai jamais réussi à voir la ressemblance avec Claudia. J'ai annulé mon rendez-vous de peur que le gars soit asthmatique. Il aurait pu crever sur le coup à peine passer le portique. J'ai juré que plus jamais de ma vie j'aurais recours à un expert. Au diable l'art, vive les taux. Les beaux petits permanents de ma mère.
Vous venez d'entendre chez le coiffeur de la chanteuse québécoise Linda Lemay. Mais qui était donc Louis Lemercier de Neuville ? Un breton, né en 1830 et qui à l'âge de 25 ans lance son premier journal, La Muselière, journal de la décadence intellectuelle, qui lui vaudra un séjour d'un mois à la prison de Sainte-Pélagie après 4 mois de parution. Ce qui ne l'empêcha pas de continuer à fonder des journaux et à devenir directeur ou rédacteur en chef. C'est toujours dans les années 1855-60 qu'il commence à publier des romans de genre, puis des vaudevilles. Enfin, en 1860, il ouvre un théâtre portatif de Poupazzi, c'est-à-dire de marionnettes, et il joue dans les salons de cette deuxième moitié du 19e siècle. Il eut un succès retentissant. Il a laissé ses souvenirs d'un montreur de marionnettiste, lecture que je vous conseille.
Moi, je construis des marionnettes avec de la ficelle et du papier. Elles sont jolies, les mignonnettes. Je vais vous les présenter. L'une d'entre elles et la plus belle, elle sait bien dire papa, maman. Quant à son frère, il peut prédire pour demain la pluie ou bien le beau temps. Moi, je construis des marionnettes avec de la ficelle et du papier. Elles sont jolies, les mignonnettes. Je vais vous les présenter. Chez nous, à chaque instant, c'est jour de fête. Grâce au petit clown qui nous fait rire. Même Alexa, cette pauvrette, oublie qu'elle a toujours pleuré. Moi, je construis des marionnettes avec de la ficelle et du papier. Elles sont jolies, les mignonnettes. Elles vous diront que je suis leur ami, que je suis leur ami, que je suis leur ami.
Vous avez tous reconnu Christophe. Ingénieux et intelligent, Neuville a laissé une œuvre très diversifiée. La physiologie du coiffeur en est la preuve. Cette mode littéraire de la physiologie eut un grand succès dans la première moitié du 19e siècle. Il s'agissait d'une caricature des mœurs et des comportements d'un groupe social ou professionnel. Quelques-unes sont célèbres, comme la physiologie du mariage de Balzac ou la physiologie du goût de Brillat-Savarin, le gastronome bien connu.
Tels durent être par la nature des choses les éléments du plaisir de la table, qu'il faut bien distinguer du plaisir de manger, qui est pour autant son antécédent nécessaire. Le plaisir de manger est la sensation actuelle et directe d'un plaisir qui se satisfait. Le plaisir de la table est la sensation réfléchie qui naît de diverses circonstances, de faits, de lieux, de choses et de personnes qui accompagnent le repas. Le plaisir de manger nous est commun avec les animaux. Il ne suppose que la faim et ce qu'il faut pour la satisfaire. Le plaisir de la table est particulier à l'espèce humaine. Il suppose des soins antécédents pour les après du repas, pour le choix du lieu et le rassemblement des convives. Le plaisir de manger exige, sinon la faim, au moins de l'appétit. Le plaisir de la table est, lui, le plus souvent indépendant de l'un et de l'autre. Le plaisir de la table ne comporte ni ravissement, ni extase, ni transport, mais il gagne en durée ce qu'il perd en intensité, et se distingue surtout par le privilège particulier dont il jouit de nous disposer à tous les autres, ou du moins de nous consoler de leur perte. Effectivement, à la suite d'un repas bien entendu, le corps et l'âme jouissent d'un bien-être particulier. Au physique, en même temps que le cerveau se rafraîchit, la physionomie s'épanouit, le coloris s'élève, les yeux brillent, une douce chaleur se répand même dans tous les membres. Au moral, l'esprit s'aiguise, l'imagination s'échauffe, les bonbons naissent et circulent. Et si Lafare et Saint-Aulaire vont à la postérité avec la réputation d'auteur spirituel, ils le doivent surtout à ce qu'ils furent convives aimables. D'ailleurs, on trouve souvent rassemblés, autour de la même table, toutes les modifications que l'extrême sociabilité a introduites parmi nous. L'amour, l'amitié, les affaires, les spéculations, la puissance, les sollicitations, le protectorat, l'ambition, l'intrigue. Voilà pourquoi le convivia touche à tout. Voilà pourquoi il produit des fruits de toutes les saveurs.
C'était un extrait de La physiologie du goût de Brillat Savarin, dit par La voix des livres. En 1862, année de publication de cette physiologie du coiffeur, la mode en était quelque peu passée. Mais peu importe, puisque cet ouvrage permet aujourd'hui de plonger dans une époque fascinante, celle du Second Empire. Il y avait à cette période entre 1600 et 1700 coiffeurs dans Paris, qui comptaient alors 1,696,141 habitants. On trouvait 424 coiffeurs tout autour de Paris, dans la banlieue, dont 44 dans la seule ville de Versailles. À ces chiffres, il fallait ajouter les 800 à 850 coiffeurs de tous les autres départements français. Mais qu'est-ce qu'un coiffeur pour Neuville ? Rien de plus futile, à mon sens, que la profession qui a pour but l'ornementation extérieure de notre individu. Ses conceptions, sans cesse modifiées par la mode, sont nécessairement éphémères. Elles appartiennent, si l'on veut, à l'histoire plastique d'une époque. Elle peut même avoir une certaine importance sur les événements, mais ce n'est qu'une cause indirecte, qu'un prétexte, dont les hommes sérieux auraient le tort de se préoccuper. Et il cite un exemple. Un exemple que je trouve par hasard dans un article d'Alphonse Karr. Louis VII, roi de France, avait pour favori Pierre Lombard, évêque de Paris. Un jour, se basant sur quelques mots des Saintes Écritures, le prélat conseille au roi de couper ses cheveux et de raser sa barbe. Le roi obéit au prélat et le barbier tondeur, d'un coup de ciseau et d'un coup de rasoir, fut cause d'une guerre qui dura 300 ans et coûta à la France 3 millions de Français et plus de 3 millions d'hommes à l'Angleterre. Développons. Louis VII, rasé, fut trouvé ridicule par sa femme, Éléonore de Guienne. Celle-ci le trompa, vigoureusement. Louis VII la répudia. De là, par des événements successifs qu'il serait trop long de rapporter ici, les Anglais firent la guerre à la France de 1150 à 1450. Et cette Éléonore de Guienne est évidemment plus connue sous le nom d'Aliénor d'Aquitaine.
Qu'est-ce que tu dis, Nicole ? Ouvre la porte de la salle demain, j'entends pas très bien.
T'as changé de coiffure ? Pourquoi j'ai changé de coiffure ?
Tu veux que je te dise ce que j'en pense ? Bon, d'accord, je me retourne pour la surprise. Rentre dans la salle de séjour. Tu es là ? Chérie, avant que j'ouvre les yeux, j'aime mieux dire je suis mauvais juge. Parce que quoi que tu fasses, moi je te trouve toujours belle. Bon, mais puisque tu es là, je vais dire ce que je pense. D'accord ? Bon, alors attention. C'est la surprise ! Je les ouvre ! Je les ouvre ! Putain ! C'est ta nouvelle coiffure ? Attends, Nicole, tu veux dire que là, t'es coiffée ? Mais dis-moi, Nicole, mais qu'est-ce que c'est comme coiffure ? C'est une coiffure de coiffeur ou une coiffure que t'as inventée ? Tu l'as piquée dans un journal ? Mais ils t'en veulent ou quoi ? Mais pourquoi t'as changé de coiffure ? T'étais si bien depuis des années, avec les cheveux tirés en arrière, la barrette, une queue de cheval. Hein ? Pour éviter la routine. Attends, tu rigoles ou quoi ? La routine ? Dans notre couple ? Ah, pour moi, il n'y a pas de routine. Pour moi, c'est clair. Tu es ma femme et je t'aime. C'est clair et net. Tu es ma femme, nous avons trois enfants et je t'aime. Et pour éviter la routine, t'avais vraiment pas besoin de rentrer dans une névrose coiffure. Si, si, une névrose, parce que maintenant, tu les trouves trop courts et t'arrêtes pas de bouger la tête. Bon, d'accord, j'insiste pas, parce que je vois que t'es à cran, là. Hein? Si t'es à cran, t'es à cran. Et un signe qui ne tombe pas. Quand tu es à cran, tu as un tic, tu grattes la main. On a chacun son truc, hein. Moi, je suis à cran, je me mâche la langue. Ah bon, écoute, hein, on se calme, hein. Seulement un conseil, la prochaine fois que tu changes de coiffure, hein, avertis-moi que je prenne un thémista, hein.
C'était La Nouvelle Coiffure, sketch de l'inoubliable Alex Métayer. L'importance du coiffeur est considérable, non seulement pour l'ornementation extérieure de notre individu, comme l'écrivait Neville, mais aussi pour toutes les professions qui s'y rattachent. Toujours Deville en fait une liste exhaustive. Voyez quelles professions s'y rattachent directement. Les fleuristes, les fabricants de fleurs artificielles, les fabricants de rubans, les fabricants d'épingles, les fabricants de peignes, les marchands de cheveux, les marchands d'écailles, les parfumeurs, les chimistes, les marchands de diamants, les marchands de perles, les bijoutiers, les brossiers, les fabricants de bustes en cire, les couteliers, les fabricants de cuir à rasoir, les fabricants de fauteuils et chaises mécaniques, les marchands de lavabos toilettes, les marchands de glace, etc., etc. Sans compter que les tailleurs, les modistes, les couturières, les lingères, les chapeliers, etc., sont forcés de marcher d'accord avec cette profession. Si l'on y réfléchit bien, cela n'a pas tellement changé. Déjà, dans l'Antiquité sévissait le coiffeur. L'on trouvait en Grèce, comme à Rome, des échoppes de coiffeurs pour les hommes seulement, car la coiffure des femmes se faisait à domicile. Au Moyen Âge, c'est la corporation des barbiers chirurgiens qui s'attelle à la coupe des cheveux et des barbes. Très souvent, les élèves les moins instruits s'occupaient de l'art de raser et faire le poil. Le maître, lui, s'occupait de chirurgie. C'est par un édit de 1691 que Louis XIV sépare officiellement le métier. L'on a alors les barbiers chirurgiens et les barbiers, baigneurs, étuvistes, perruquiers qui se déplacent à domicile. Le mot coiffeur apparaît donc au XVIIe siècle et est tiré du mot coiffure du début du XVIe qui signifiait ce qui sert à couvrir ou à parer la tête. Le premier coiffeur officiel de la cour est le sieur Le Gros de Rumigny, 1710-1770. Il coiffait surtout Madame de Pompadour. Il fut le fondateur de l'Académie des coiffures des dames françaises et il laissa un ouvrage de référence, L'art de la coiffure des dames françaises. En 1781, Louis-Sébastien Mercier, dans le Tableau de Paris, consacre un chapitre aux coiffeurs. Qui connaît le sieur Dupin qui vient d'afficher partout l'art varié des coiffures? Qui l'a lu? Moi seul, peut-être? Il célèbre avec enthousiasme cet ornement léger qui garnit la tête et accompagne le front de l'homme. Et comme il faut idolâtrer son talent pour le pousser loin, il s'extasie devant l'art qui a coupé, tordu, crêpé, façonné, arrangé, papilloté, pommadé, frisé et poudré, de 200 ou 300 façons différentes, les cheveux soumis ou rebelles d'un galant homme ou d'une jolie femme. Il creuse cet art dans toute sa largeur et sa profondeur. Et quel art, même de nos jours, a été fondé en entier. L'art de la coiffure est, sans contredit, celui qui approche le plus de la perfection. Le coiffeur trouve sa récompense dans l'exercice même de sa profession. Son œil domine incessamment les plus rares trésors de la beauté, voilés pour tout autre regard. Il est témoin de tous les mouvements, de toutes les grâces, de toutes les minauderies de l'amour et de la coquetterie. Il voit les premiers ressorts de ce jeu que possèdent si bien les femmes et qui fait mouvoir par un fil imperceptible les grands pantins du siècle. Il doit être discret, tout voir et ne rien dire. Autrement, ce serait un vil profanateur des mystères auxquels il est admis et l'on ne choisirait plus que des femmes qui gardent ordinairement le secret de leur sexe. Les coiffeurs avaient mis à leur porte en gros caractères Académie de coiffure. Monsieur d'Angivillé a trouvé que c'était profaner le mot académie et l'on a défendu à tous les coiffeurs de se servir de ce mot respectable et sacré.
Bonjour, je voudrais prendre rendez-vous.
Je coupe du matin au soir, je sculpte à coups de rasoir jusqu'à très tard. Je suis pas du genre à vous laisser choir.
les cheveux en blond, les courts, les longs et même les mi-longs. Je fais très attention. La mise en pli, ça fait pas un pli. Padidoudam, soyons de mèche. Je suis coiffeur pour dame. Padidoudam, le roi des tresses et du chignon banane. Je frise jusqu'à plus soif. J'ai la maîtrise des coupes qui décoiffent. C'est mon taf. N'hésitez pas à rentrer, prenez place. J'en pense pour les barrettes, les bigoudis, les franges et les couettes. Tenez-vous prête. Un coup de gel et vous serez plus belle. Padidoudam, soyons de mèche. Je suis coiffeur pour dame. Padidoudam, le roi des tresses et du chignon banane. Prenez place, prenez place. Je suis coiffeur, je suis coiffeur. Je sais quoi faire, je sais quoi faire. Pour vous coiffer, pour vous coiffer. Soyons de mèche. Soyons de mèche.
C'est moi, le king du babyliss, le spécialiste du cheveu lisse, l'expert en bigoudi, le magnatiste du frisottis.
Je brosse des portraits flatteurs pour un brushing après une couleur. C'est tendance. Chez moi, on procède avec élégance. J'innove, je crée, je diffuse. Certains diront que j'ai la science infuse. À la base, surtout ne dites pas que je vous rase. Ah ça non, ne me le dites pas. Padidoudam, soyons de mèche. Je suis coiffeur boudin. Padidoudam, le roi des tresses et du chignon banane.
Prenez place, prenez place.
Padidoudam, soyons de mèche. Je suis coiffeur boudin.
Prenez place, prenez place.
Padidoudam, le roi des tresses et du chignon banane.
Prenez place, prenez place.
Je suis coiffeur,
je suis coiffeur.
Je sais quoi faire,
je sais quoi.
Prenez
faire.
Place, prenez place. Pour vous coiffer,
pour vous coiffer.
Prenez place, prenez place. Soyons de mèche,
soyons de mèche.
Vous venez d'écouter Coiffeur pour dames, chanté par Lizzie Ling. Ces coiffeurs se rendaient chez ces dames pour les coiffer. Et Mercier, dans son chapitre sur les heures du jour, écrit: sur les 9 heures, on voit courir les perruquiers, saupoudrés des pieds à la tête, ce qui les a fait appeler Merlan, tenant d'une main le fer à toupet et de l'autre la perruque. Ah, la perruque! Accessoire abondamment utilisé dans l'Égypte ancienne ou encore chez les Assyriens, les Phéniciens. Les femmes grecques ou romaines l'utilisaient aussi énormément. On la trouve aussi dans le théâtre traditionnel chinois et japonais. Après le 5e siècle, à la chute de Rome, la mode de la perruque ou postiche disparaît pour renaître en Angleterre avec Élisabeth Ier qui, avec sa célèbre perruque rousse, reprend les coiffures des romaines. En France, la mode des perruques arrive avec Louis XIII qui voulait cacher sa calvitie. En 1620, la mode étant aux cheveux longs, la perruque eut un grand succès auprès de ceux dont la chevelure laissait à désirer. Peu à peu, les perruques devinrent indispensables comme accessoires, d'autant que Louis XIV lança la mode de la perruque imposante à partir de 1680. C'est en 1673 que Louis XIV avait adopté la perruque, qui à ce moment-là imitait encore la nature. Le roi, à cette époque, désirait seulement un complément capillaire pour donner plus de volume à sa chevelure. C'est Benoît Binet qui fut choisi comme artiste capillaire et qui eut l'idée d'envoyer aux quatre coins de la France des assistants pour rapporter des cheveux semblables à ceux du roi. Quelques années plus tard, il créait les binettes. Le règne de Louis XIV fut le plus grand moment de leur vogue. On en abusa même. Celle de la cour pesait plusieurs livres et coûtait jusqu'à 1000 écus. Les tresses descendaient jusque sur les hanches et le toupet dominait sur le front à une hauteur de 5 à 6 pouces. L'histoire nous a conservé le nom de l'ouvrier ingénieux qui inventa cette coiffure. Il se nommait Binet et se qualifiait d'artiste qui fait les perruques du roi, demeurant rue des Petits Champs. Les magistrats, les médecins, les docteurs reconnurent qu'une binette donnait de la dignité, indiquait la science et en imposait à la multitude. C'était somme toute une grande affaire pour les hommes et qui comptait beaucoup dans leurs frais de toilette. Ce texte de 1885 est extrait d'un article de la revue mensuelle et archéologique L'Ancien Forez. Le mot binette devait avoir une belle postérité puisqu'encore aujourd'hui il est employé. Loridan Larcher, 1831-1902, bibliothécaire et lexicographe, publia en 1859 son dictionnaire des excentricités du langage, dans lequel on trouve la définition et l'explication de binette. Binette, tête, synonyme, boule, balle, boussole, colinquinte, frimousse, tronche, trombine, faciès. Pour arriver à rendre enfin l'œuvre complète, Nadar de chacun d'eux décalqua la binette, almanach du tintamarre. Le journal des coiffeurs revendique ainsi l'origine de ce mot. Binette, le coiffeur du roi, ne s'était jamais une de ces belles perruques pour moins de 3000 livres tournois. Il est vrai que ce grand perruquier ne se contentait pas de mettre une simple petite bande d'implantés sur le milieu et qu'il garnissait toute la partie frontale de fines toiles de crin, chose qui donnait à ses devants de perruque in folio une légèreté extraordinaire. Aussi, comme les élégants de l'époque aimaient à parler toilette, parlaient-ils souvent de binette, leur perruque, surtout lorsqu'elle sortait de chez le grand faiseur. « Vous avez là une bien jolie binette », disait-on, lorsqu'on voulait complimenter quelqu'un sur la beauté de sa perruque. Aujourd'hui, et sans savoir pourquoi, on dit souvent par moquerie « Oh la drôle de binette !»
Il paraîtrait que la sage-femme, quand je vins au monde, a dit à ma maman, chère madame, mais regardez donc votre petit. Oh là là, c'te drôle de binette, oh là là, c'te gueule qu'il a. Oh là là, c'te drôle de binette, oh là là, c'te gueule qu'il a. Pendant ma première année, ma nourrice ne fit que chanter la nuit et toute la journée en me donnant à téter. Oh là là, c'te drôle de binette, oh là là, c'te gueule qu'il a. Oh là là, c'te drôle de binette, oh là là, c'te gueule qu'il a. Un peu plus tard, quand mon père à l'école me présenta, le maître d'un ton sévère lui dit: monsieur, qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là, c'te drôle de binette, oh là là, c'te gueule qu'il a. Oh là là, c'te drôle de binette, oh là là, c'te gueule qu'il a. Le jour de mon mariage, le maire tout ahuri dit à ma femme: je vous engage à ne pas prendre ça pour mari. Oh là là, c'te drôle de binette, oh là là, c'te gueule qu'il a. Oh là là, c'te drôle de binette, oh là là, c'te gueule qu'il a. Sur la place de la Bastille, y a pas longtemps, un Anglais, en apercevant ma bille, se mit à crier en français. Oh là là, c'te drôle de binette, oh là là, c'te gueule qu'il a. Oh là là, c'te drôle de binette, oh là là, c'te gueule qu'il a. Je demandais rue de la Victoire à visiter un logement. Concierge me cria: c'te poire, je te loue pas d'appartement. Oh là là, c'te drôle de binette, oh là là, c'te gueule qu'il a. Oh là là, c'te drôle de binette, oh là là, c'te gueule qu'il a. L'autre jour à la charcutière, je réclamais un cornichon. Elle me dit: monsieur, ça ne va guère avec la tête de cochon. Oh là là, c'te drôle de binette, oh là là, c'te gueule qu'il a. Oh là là, c'te drôle de binette, oh là là, c'te gueule qu'il a. Bref, à mon heure dernière, quand je partirai d'ici, pour aller trouver Saint-Pierre, j'ai bien peur qu'il chante aussi. Oh la la, ce drôle de minette, oh la la, ce gueule qu'il a. Oh la la, ce drôle de minette, oh la la, ce gueule qu'il a.
C'était La Binette, chanson d'Aristide Bruand, interprétée ici par Jean Weber et André Bruno. Mais revenons à la physiologie du coiffeur de Neuville, qui consacre un de ses chapitres à la description du coiffeur de dames. Avant d'esquisser les différents types de coiffeurs de dames, il est utile de poser d'abord le personnage. Le coiffeur de dames est en général jeune, assez beau garçon, poli d'une manière excessive, souvent fat, prévenant. Et discret. Il jouit d'une bonne santé et quand il a des dents gâtées, il mange de la menthe ou du cachou. Il ne fume pas avant la fin de la journée. Il est aussi indispensable à une femme du monde que sa femme de chambre et sa couturière. D'un autre côté, le coiffeur de dame doit être l'ami intime de la femme de chambre, dont il ne peut se passer. Le coiffeur commence donc son travail par mettre de son côté la femme de chambre. C'est un savon parfumé, un flacon de vinaigre, une résille, etc., qui sert de base à ce traité muet, et voici comment il s'exécute. On sonne. C'est le coiffeur. « Oh, comme vous êtes en retard aujourd'hui !» Règle générale, le coiffeur est toujours en retard, quoiqu'il soit toujours très exact. Rien ne fait courir les aiguilles d'une pendule comme l'impatience d'être joli. Le coiffeur s'excuse, il dénoue la tresse et dispose à sa proximité tous les engins de séduction. La métamorphose commence. Croyez-le bien. Et voici où la profession de coiffeur devient réellement un art. Il est très difficile de parer même une jolie tête. Il semble au premier abord qu'étant donné des cheveux naturels, des cheveux postiches, des perles, des fleurs et des rubans, on peut au bout d'un certain temps agencer tout cela d'une manière harmonieuse. Il n'en est rien. Il faut avoir d'abord trois qualités innées. La rapidité, la solidité, le goût. Il faut surtout et avant tout posséder la confiance de la femme que l'on coiffe. Alors celle-ci livre sa tête avec grâce. Elle donne les épingles, les peignes, les fleurs. Elle sourit à son miroir, elle essaie l'artillerie de ses yeux. En un mot, elle fait la répétition de sa soirée. Quand la coiffure est terminée, elle dit à sa femme de chambre « Comment me trouves-tu, Rosette ? Madame est ravissante. » Voilà pour le savon. « Madame est fraîche comme une rose. » Voilà pour le vinaigre. « Madame n'a jamais été mieux coiffée. » Voilà pour la résille. Alors le coiffeur sourit, prend son chapeau, salue et « Ah, tenez madame, dit-il, je vous apporte deux produits nouveaux, complètement inédits. L'eau des harems d'Asie pour le teint, infaillible, et l'essence de foin nouveau pour le bain. » Le coiffeur pose les deux flacons sur la table et la dame n'a pas eu le temps de répondre qu'il est déjà dehors. Car pour être bon coiffeur de dame, il est indispensable de savoir faire accepter ses produits. Il faut ensuite avoir le tact de n'offrir que ceux qui devront nécessairement plaire. Les pommades aux brunes, les eaux aromatiques aux blondes, les vinaigres aux rousses et toujours, oh, surtout toujours, les savons parfumés aux femmes de chambre, brunes, blondes ou rousses. Je n'exagère pas en donnant cette importance aux coiffeurs de dames. J'en connais un qui coiffait si bien une dame qu'elle lui acheta un homme lorsqu'il tira au sort. Il existait au XIXe siècle, pour les hommes, une épileuse, dont Neuville explique la fonction. C'est en général une femme qui n'est plus jolie pour les vieux et qui l'est encore pour les jeunes. Autant dire qu'elle a 35 ans. Elle a beaucoup vécu et vouloir compter les chevelures dans lesquelles elle a passé ses blanches mains avant l'âge qu'elle possède actuellement serait un acte de folie. Elle a des allures mystérieuses. Quand on entre chez elle, on croit entrer chez une diseuse de bonne aventure. Dans la maison, dans le salon d'attente, tout est silencieux. Parfois, cependant, on entend ces syllabes bizarres. Aïe, oï, o, i, en, osh, etc. Toutes ces exclamations proviennent évidemment d'un client qui se fait arracher ses cheveux blancs. Sauf pourtant la dernière, ouch, qui semble indiquer par ces deux syllabes que l'épileuse a commis une erreur et a pris un poil gris pour un poil de neige. C'est avec une pince en acier que se fait l'opération. Elle exige une grande connaissance du cœur humain, car pour dissimuler la douleur, l'épileuse s'efforce, par une conversation intéressante, de détourner l'attention du patient. Mais il ne faut pas croire que perruques et postiches avaient disparu. On se souvient tous de la scène des Misérables dans laquelle Fantine a vendu ses dents et ses cheveux pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa fille. Ses cheveux vendus étaient destinés à embellir les coiffures des femmes du monde. Et Neville ne manque pas de décrire ces marchands de cheveux qui, sans scrupule, allaient de village en village tondre les jeunes filles. Il faut dire qu'une chevelure valait une dizaine de francs. Une fois sa tournée finie, ce marchand venait à Paris vendre sa marchandise aux fournisseurs des coiffeurs. Fournisseurs qui l'avaient dégraissé, monté en queue, en tour, en bandeau, etc. ses cheveux avant de les vendre aux coiffeurs. Les chiffonniers aussi se faisaient marchands de cheveux. Tout simplement en récupérant les cheveux des peignes et des brosses jetés dans les ordures. Et Neville termine par un article de Richard Cortambert, 1836-1884, un géographe à qui l'on doit, entre autres, un essai sur la chevelure des différents peuples. On peut évaluer le commerce des cheveux en France seulement à une valeur de 1 500 000 francs. Les cheveux, pour être de bon emploi, doivent avoir poussé à l'abri de l'air, n'avoir jamais été crêpés et avoir même été très peu peignés. C'est à ce titre que les Bretonnes et les Normandes, si connues par leur affreuse coiffure, fournissent les meilleurs. La Normandie et la Bretagne sont loin de suffire aux demandes. Aussi, des coupeurs de cheveux exploitent-ils tout le centre et le midi et viennent-ils ensuite à Paris 2 ou 3 fois par an pour leur vente. Le prix des cheveux varie beaucoup. Il n'y en a pas au-dessous de 10 francs la livre. Et il y en a beaucoup qui vont jusqu'à 90 et 100 francs. Au 19e siècle, il existait les soirées de coiffure. Ne riez pas, nous avons bien Danse avec les stars, The Voice et autres âneries que le Pékin regarde seul devant sa télé. Au moins dans ces soirées coiffure, l'on s'amusait ensemble. J'ai assisté à une soirée de coiffure, non pas en critique, en curieux. Et je déclare que cela m'a vivement intéressé. Ainsi, dans cette soirée de coiffure, je suivais avec intérêt l'exécution de différents modèles qui me semblaient très difficiles à exécuter. Et j'admirais ces combinaisons ingénieuses d'ornementation capillaire. Ce qui me semblait merveilleux, c'était la légèreté apparente réunie à la solidité réelle. C'était de voir une femme possédant peu de cheveux, métamorphosée soudain en duchesse du dernier siècle grâce à quelques adjonctions de cheveux et de fleurs. Je ne sais si vous avez déjà vu ces tableaux faits avec les cheveux d'une personne décédée. Cette mode eut du succès de la fin du XVIIIe siècle au début du XXe siècle. Ces petits tableaux étaient commandés pour marquer un événement sentimental ou familial. Mais c'est surtout lors des décès que l'on faisait appel aux dessinateurs de cheveux. Neville, toujours dans sa physiologie du coiffeur, déplore cette habitude. Pas plus que je n'aime les tableaux en liège, je n'aime les cimetières en cheveux. Je trouve que ces combinaisons de cheveux, de teintes, de couleurs, ces reliefs faux, ces perspectives escamotées, sont d'un mauvais goût déplorable. Je comprends la chaîne ou la bague en cheveux. J'accorde même la mèche de cheveux en médaillon. Mais le tableau, non, c'est affreux. Ainsi, vous avez une tresse de cheveux d'une personne aimée, adorée. Vous donnez cela à un ouvrier qui prend brutalement cette relique, la pèse, la jauge, la manipule, y met de la colle, de la bandoline, des essences, la coupe, la ligne, la mêle avec d'autres cheveux, la hache, et finit par vous la rendre en petit cimetière mal fait, honteux et laid. Non, la relique est souillée, on ne fait pas de compromis avec les souvenirs, on les garde comme ils ont été donnés ou légués.
Je me souviens seulement qu'elle t'allait ravir. On ne devinait rien et surtout pas l'avenir. On ne se doutait pas à sa belle couleur entre les mèches brunes aux reflets de pudeur que c'était un couperet qui pesait sur ta nuque, ta perruque. Peut-être aurais-je aimé que ce soit à l'envers, à moi le grand trou noir et à toi le désert, à toi les lendemains sur des sables mouvants. Le sentiment coupable de n'être que vivant, à moi comme une insulte, la pitié qui reluque,
perruque. Un matin, j'oublierai d'avoir les larmes aux yeux. Je me réveillerai de ce long deuil sans Dieu. Je me consolerai avec le temps qui passe, le vent qui désapprend et la mer qui efface ton regard, ton visage est tout aussi. Je ne voulais rien et je n'ai rien gardé. Ce n'est que dans le cœur qu'on dresse les mausolées. Pourtant je sais déjà le sale coup de poignard quand je retrouverai tout à fait par hasard une pauvre relique parmi mille autres trucs, ta perruque. Pour songer aux mystères qui font de nos amours des amours impossibles, je finirai par mettre sur la tête impassible d'une pleureuse de pierre ou d'un ange de stup.
C'était La Perruque de Juliette. Bonne journée à toutes et à tous. À bientôt. Au revoir. Chronique d'un siècle. Une émission culturelle présentée par Jeanne Boursier.
Sur Radio Boomerang 89.7 FM.